Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter VO Afrique et surtout d'être au rendez-vous de votre santé, votre avenir, le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Pour vous le présenter, je suis Mamadou Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine.
Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous nous intéressons à la santé des déplacés de guerre. Docteur Philippe Kyunyu.
Nous avons les maladies respiratoires, surtout chez les nourrissons. Vous avez les maladies diarrhéiques, mais aussi les maladies dermatologiques. C'est l'ensemble de ces maladies que nous découvrons beaucoup plus chez les déplacés.
Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo et précisément dans le Nord Kivu, en proie à une grave insécurité. Nous le verrons, l'oisiveté et les conditions de vie précaires exposent aussi les déplacés aux infections sexuellement transmissibles.
Nous courons beaucoup de risques. Il y a les risques des maladies, les risques de prostitution. En faisant la débauche, ils attrapent des IST telles que la blénorragie, le syphilis.
Vous aurez toutes ces informations et bien d'autres dans vos rubriques habituelles. Comme toujours, le docteur Amangenkap a répondu à vos questions. Mais avant de continuer, voici l'actualité.
Coup d'œil sur l'actualité.
Cette semaine, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin.
Bonjour Rosine.
Alors au Nigeria, la fièvre de Lassa fait des victimes.
Oui Rosine, les autorités nigériennes ont annoncé mercredi dernier que cette maladie a fait 2 morts à Lagos. Les 2 patients admis présentaient des symptômes très avancés de la maladie et sont décédés malgré nos efforts, a déclaré le professeur Chris Baudet, directeur du centre hospitalier universitaire de Lagos. La première victime était une femme de 39 ans enceinte qui n'a pas survécu à une fausse couche causée par la fièvre hémorragique foudroyante selon son examen post-mortem. Pas moins de 100 employés de l'hôpital qui ont pu être exposés aux patients ont été placés en observation et ceci pour tenter de contrer une épidémie.
Alors Firmin, peux-tu nous parler davantage de cette maladie ?
Rosine, la fièvre de Lassa est une infection virale qui tire son nom d'une localité du nord du Nigeria où elle a été identifiée pour la première fois en 1969. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Sévissant de manière endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, la fièvre de Lassa est asymptomatique dans 80% des cas. C'est-à-dire que les patients ne présentent pas de symptômes, mais pour les autres, elle peut provoquer des atteintes hémorragiques ou neurologiques graves. L'année dernière, une épidémie de cette maladie avait fait plus de 100 morts dans 14 États nigériens, dont ceux de Lagos et Abuja, la capitale fédérale.
Poursuivons avec la flambée de dengue qui sévit à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire.
Oui, Rosine, des cas suspects ont été notifiés pour la première fois le 22 avril 2017 et confirmés par le laboratoire de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire une semaine plus tard. Au 11 juillet 2017, 623 cas suspects, dont 2 mortels, avaient été notifiés. La majorité des cas ont été enregistrés dans la ville d'Abidjan, précisément dans le district sanitaire de Cocody-Bengerville. La co-infection par le virus de la fièvre jaune a été suspectée dans 68 cas et confirmé dans 1 cas. La confirmation des cas en laboratoire se poursuit. Les principaux facteurs prédisposant à une flambée de dengue sont la saison des pluies, la forte densité des refuges de moustiques, la mauvaise connaissance par les communautés de la manière dont les moustiques se reproduisent.
Alors Firmin, que font les autorités ivoiriennes pour faire face à cette flambée ?
Le ministre ivoirien de la Santé coordonne la riposte par l'intermédiaire de l'Institut national d'hygiène publique. Plusieurs interventions de lutte antivectorielle sont en cours. Elles consistent en l'élimination des repères de moustiques. Il y a aussi la surveillance à travers la recherche active des cas et la collecte d'échantillons pour confirmation en laboratoire. La riposte en cours s'appuie également sur les responsables politiques, les maires, les religieux et autres leaders communautaires. Pour rappel, la dengue est une infection virale transmise par les moustiques. Elle provoque un syndrome de type grippal et peut devenir mortelle. Pour le moment, il n'existe pas de traitement spécifique pour la dengue, mais la détection précoce et l'accès à des soins médicaux adaptés permettent de ramener les taux de mortalité en dessous de 1%.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Terminons par l'Afrique du Sud où le débat sur la légalisation du cannabis se poursuit.
La discussion a été lancée en mars dernier lorsqu'une cour régionale sud-africaine a jugé la criminalisation du cannabis inconstitutionnelle. En mai, environ 2000 personnes avaient défilé au Cap pour sa légalisation. La possession, la culture et la consommation de marijuana, même en petite quantité, sont des faits interdits en Afrique du Sud et peuvent conduire les contrevenants en prison. Pourtant, plusieurs personnes consomment le produit pour des raisons thérapeutiques. L'huile de cannabis est utilisée par certains Sud-Africains pour soulager leurs douleurs quand les anti-inflammatoires habituels deviennent inefficaces.
Il faut dire, Firmin, que même la communauté scientifique demeure divisée sur les bienfaits médicaux du cannabis.
Oui, Rosine. En janvier, l'Académie américaine des sciences a proposé une synthèse de plus de 10 000 travaux parus sur les effets de la plante. Si elle est efficace pour réduire la douleur dans certains cas, trop de zones d'ombre demeurent encore selon ses experts. Le Conseil sud-africain de recherche médicale a, de son côté, lancé plusieurs essais cliniques d'après les médias locaux. Pour Sean Shelley, chercheur à l'université de Pretoria, le cannabis peut être considéré comme une alternative lorsque les médicaments traditionnels s'avèrent inefficaces. Il peut être un remède pour certaines personnes, un poison pour d'autres personnes qui ont des problèmes d'addiction, nuance-t-il. En juillet, l'Uruguay est devenu le premier pays au monde à légaliser complètement la production, la distribution et la consommation du cannabis.
Merci Firmin.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Depuis plusieurs mois, des groupes armés sèment la terreur et la désolation dans certaines localités de la province du Nord Kivu en RDC, obligeant les populations locales à chercher refuge ailleurs. Ces migrations posent divers problèmes, parmi lesquels les problèmes de santé publique. À Oicha, une localité située à une soixantaine de kilomètres de Beni dans le Nord Kivu, se trouve un camp de déplacés. Là-bas, notre correspondant Erika Smouizi a rencontré Mutima Visa Kambale, le président du comité des déplacés. Il a accepté de nous raconter les conditions de vie, les problèmes de santé et les difficultés auxquelles font face les déplacés.
Je réponds au nom de Mutima Visa Kambale Nzoera. Je suis le représentant des déplacés de guerre venus du côté est par rapport à la route nationale numéro 4 dans la commune rurale d'Oicha et plus précisément la guerre qui a affecté le secteur Benimbao.
Vous êtes aussi déplacé?
Bon, je suis déplacé. Et je suis président aussi des déplacés. Et quand nous sommes arrivés ici, nous avons créé un centre pour l'accueil aux déplacés. Et je représente les déplacés à tout niveau.
Comment les déplacés sont accueillis et vivent ici dans les camps?
Quand nous sommes arrivés ici avec les frères déplacés que vous voyez à côté de moi ici, premièrement, nous avons rencontré une structure d'accueil qui a fait tout moyen pour montrer chaque place où va se placer chaque vague de déplacés venant de chaque village de provenance. Et quand les déplacés sont arrivés ici, les déplacés sont à trois catégories. Il y a les déplacés, les frères pygmées que vous voyez à côté ici. Il y a aussi les bandous qui ne sont pas ici, que nous allons rencontrer dans les écoles. Et il y a aussi d'autres bandous qui sont dans des familles d'accueil. Et plus précisément, les déplacés avec qui nous sommes ensemble ici, ce sont nos frères pygmées. Et alors, nous sommes décidés d'abord de créer un petit site en collaboration avec l'église qui nous avait accueillis pour que nos frères déplacés pygmées s'installent dans ce petit site que vous voyez ici, présentement là où nous sommes présents.
Alors, est-ce qu'il y a des risques qu'ils courent en termes de maladies? Et ici, au site même, nous pouvons parler de certains cas de prostitution.
Bon, avant de parler de risques, bien prostitution, d'abord, je vais parler de la condition de vie en général que mènent les déplacés. Depuis que les déplacés sont arrivés ici, dans un premier temps, il y a les autochtones qui étaient mobilisés. Il y a des églises qui étaient mobilisées, il y a eu des associations de jeunes qui étaient mobilisées à faire des petites collectes de vivres pour ainsi partager à ces déplacés. Mais par après, cette assistance n'a pas perduré. C'est une assistance qui peut durer 2-3 jours. Bon, il y a eu maintenant les déplacés qui mènent une vie très critique. Ne sachant quoi faire, ils se sont obligés de faire des petits travaux journaliers pour se procurer un peu de l'argent, pour payer ne fût-ce que les vivres aux enfants. Puis, ils se donnent aussi dans les travaux de ramassage des noix de palme qu'ils doivent congasser pour ainsi vendre un kilo revient à 150 ou bien 200 francs bon, pour payer un peu de la nourriture du sombé pour se procurer à vivre. Bon, maintenant, le risque. Depuis que nous sommes arrivés ici, nous courons beaucoup de risques. Il y a les risques de maladies, il y a les risques de prostitution, il y a aussi des risques d'attraper quelqu'un en train de se ravitailler dans les champs d'un autochtone. Bon, on les suppose comme un voleur. Beaucoup de risques que nous courons ici. Bon, je vais parler d'abord premièrement de nos frères déplacés, pygmées. Nos frères pygmées, d'abord, un, ils vivent ensemble comme ils étaient venus. Ils n'ont pas cette habitude-là de se mélanger parmi d'autres populations qui n'est pas pygmées. En se séparant d'autres populations, ils n'ont pas vraiment cet accès-là d'avoir de vivre, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir le prendre, aller faire des travaux dans les champs. Mais comment vivent-ils? Ils ont tendance de rentrer là où ils ont quitté pour aller chercher des vivres dans des champs là-bas. Et quand ils arrivent là-bas, il y a risque de se rencontrer avec les égorgeurs et il y a d'autres qui perdent leur vie là-bas. Voilà une des risques. Et deuxièmement, ici dans les sites, les gens sont venus et vivent en agglomération ensemble. Ils sont venus avec des jeunes filles non mariées. Ils sont venus avec des garçons non mariés. Et puis, maintenant, en vivant ensemble, maintenant, ils ont tendance de pratiquer la prostitution.
Est-ce qu'il y a certains cas de maladie, dont le VIH, qui peut avoir été détecté?
Bon, surtout pour d'autres maladies, je peux parler très fréquemment des IST, les maladies telles que la blénorragie, le syphilis, ça c'est très fréquent parmi les déplacés. En faisant la débauche, se croiser avec une personne qui n'est pas son partenaire, ils attrapent de telles maladies. Bon, pour le cas de VIH SIDA, bon, ça c'est à moins de pourcentage parmi ces déplacés pygmées. Mais parmi les déplacés bantous, là on peut trouver quelques exemples qui ont attraper le VIH-SIDA. Et cela, nous pouvons surtout consulter les personnages soignants prenant les déplacés en charge à question de la santé. Là, on peut trouver quelques exemples de ceux qui ont attrapé le VIH-SIDA.
Alors, ici, dans les camps, est-ce que ces déplacés bénéficient d'une assistance de manière particulière?
Ici, dans les camps, surtout nous, comme les représentants, nous faisons des plaidoyers et quelquefois, il arrive un moment où une ONG peut apporter des vivres et puis apporter aussi des non-vivres. Mais ce n'est pas le plus souvent. C'est des cas très rares. Je peux évoquer par exemple une église d'Afrique Service au mois de juin. Il a quand même apporté de la nourriture, du riz, des haricots, des huiles, du savon, du sel de cuisine. Ils ont partagé ça, à chaque ménage, se trouve dans ce camp de déplacés.
Alors, à qui s'adresse-t-on quand il y a un cas de maladie et de quelle manière le traitement se passe?
Quand il y a maladie, nous avons fait tout moyen d'avoir un bureau pour les déplacés, pour les comités de déplacés. C'était centre d'accueil aux déplacés, mais uniquement composé de membres de déplacés. Et ce bureau-là, ça civilise les déplacés quand il y a un cas d'une maladie. Le malade s'adresse directement à ses bureaux. Et les bureaux disponibilisent un petit jeton et le malade part tout droit avec ce petit jeton au centre de santé où une ONG a déployé des médicaments comme une assistance aux déplacés. Par exemple, ici, à partir du mois de mars à juin, il y a une ONG qu'on appelle Ibireski, qui a apporté des médicaments et il a disponibilisé ça à l'air de santé de Pakanza, où les déplacés, en arrivant à notre bureau, directement, ils ont accès aux soins de santé dans l'air de santé de Pakanza. Dernièrement, il y a une ONG qu'on appelle Global Refugee International. C'est une ONG aussi qui s'occupe uniquement des enfants mal nourris. Mais quand IRC a stoppé ce contrat, bon, cette ONG accueille aujourd'hui les déplacés qui sont malades. Mais moyennant un jeton octroyé dans notre bureau qui lui fait accès à ses soins de santé.
Alors pour lutter contre différentes maladies ici dans les sites ou dans les camps, vous pensez que les solutions sont lesquelles?
Pour lutter sur différentes maladies qui attaquent les déplacés dans le camp, surtout les IST, nous faisons une campagne de sensibilisation. Nous éduquons d'abord la population à ne pas prendre une personne qui n'est pas son partenaire, à éviter cela. Nous sensibilisons les filles et les garçons à ne pas aller à gauche et à droite pour la prostitution. Puis, à ce qui concerne, par exemple, les maladies à l'origine hydrique, nous faisons une campagne à sensibiliser la population à maintenir l'hygiène, la propreté, l'hygiène, l'assainissement, qu'ils utilisent de latrines, qu'ils utilisent aussi des canaux, pas prendre n'importe quelle eau pour l'utilisation de l'eau à boire. Il faut qu'ils utilisent d'abord de l'eau potable.
Nous remercions Mutimavisa Kambale pour ce témoignage.
Quelqu'un l'a vécu, voici son témoignage.
Parmi les problèmes de santé auxquels sont confrontés les déplacés figurent les traumatismes accidentels, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires. Les enfants souffrent le plus souvent de malnutrition, tandis que de nombreuses femmes font face aux séquelles des violences sexuelles, aux infections sexuellement transmissibles et aux complications liées à l'accouchement. C'est pour y faire face que les États ont mis en place des normes et des conventions internationales relatives aux droits humains. Parmi ces droits, il y a le droit à la santé. Et pour favoriser l'accès à ce droit, des organisations nationales et internationales se mobilisent. C'est le cas de l'ONG Global Refuge International, une ONG américaine. Le docteur Philippe Kyuniu, un médecin congolais, travaille pour le compte de cette ONG. Il a accepté de nous parler des problèmes de santé et de la prise en charge médicale des déplacés.
Je suis docteur Philippe Kyuniu chez Global Refuge International à la base d'Oicha.
Voilà, docteur, les sida et les maladies sexuellement transmissibles sont-ils un problème de santé réellement parmi les déplacés ici en Antilles?
Les IST et le VIH, c'est vraiment un problème de santé publique parmi les déplacés que nous assistons ici à Oicha. Ce qui est surtout un problème sérieux, c'est que toutes les fois qu'il y a des patients en consultation, des déplacés, ils ne manquent pas de présenter de plaintes à ce sens. Et que lorsque nous passons à des examens des laboratoires, effectivement, ça confirme les résultats que les IST et le VIH, c'est vraiment un problème de santé publique parmi les déplacés ici à Oicha.
Alors, quelles sont les autres maladies courantes dans les camps des déplacés?
Dans les camps des déplacés, nous avons beaucoup plus le paludisme. Comme nous sommes dans une région endémique, nous avons les maladies respiratoires, surtout chez les nourrissons et les grands nourrissons. Vous avez les maladies diarrhéiques, mais aussi les maladies dermatologiques, ce que nous appelons les maladies de la peau. Et c'est l'ensemble de ces maladies que nous découvrons beaucoup plus chez les déplacés.
Alors, qu'est fait Global Refugee International dans les camps de déplacés pour pouvoir éviter la propagation du VIH-Sida et les IST en général?
D'une façon générale, Global Refugee s'est fixé comme objectif d'aider les déplacés et surtout de les sensibiliser par rapport aux défis que les IST et le VIH présentent face à la population sanitaire de la zone de santé d'Oicha. Et alors que Global Refuge, des fois que nous avons nos cliniques mobiles dans différents sites, nous sensibilisons les patients et les déplacés sur l'importance de bien se protéger face aux IST, surtout avoir une relation sexuelle responsable. À ceux qui sont mariés, nous demandons à ceux qu'ils se tiennent à la fidélité. Et ceux qui n'ont pas de mari ou alors les jeunes, comme la sexualité, c'est aussi un problème chez les jeunes. Nous les conseillons beaucoup plus d'utiliser les préservatifs. Mais beaucoup plus, nous insistons sur la propreté des latrines et des lieux d'aisance. Ce que il faut que les parents, même s'ils sont déplacés, qu'ils tiennent beaucoup plus à la propreté des latrines, des douches, pour éviter les IST. Parce que, des fois, c'est par le manque de propreté des latrines que beaucoup plus les filles, les petites filles et même les enfants peuvent s'infecter par les IST. À part les grandes personnes qui, d'une façon générale, c'est par voie sexuelle.
Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé ici de pouvoir recevoir un couple ou certains déplacés qui ont été victimes de VIH?
Oui, nous les recevons, et toutes les fois que nous recevons quelqu'un qui est VIH positif, nous la voyons à l'hôpital général de référence, parce que c'est là qu'il y a beaucoup plus de tests que ce que nous avons. Et avec l'hôpital général, nous voyons comment collaborer dans la prise en charge de ces patients.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour assurer un bon suivi sanitaire des déplacés?
Bon, disons que dans tout service, il ne manque pas de difficultés. Néanmoins, chez Global Refuge, ce qui nous a été un défi majeur, c'était le fait que certains qui n'étaient pas déplacés voulaient aussi se faire soigner chez nous, comme chez nous, les soins sont gratuits. Et c'est surtout que nous avons aussi essayé de trouver une solution par rapport à ces problèmes, comme nous avons trouvé une ONG locale, CAD, qui s'occupe beaucoup plus de déplacés. C'est avec cette ONG locale que nous avons pu trouver des solutions pour identifier réellement celui qui est déplacé et celui qui ne l'est pas.
Et quels sont les droits d'un déplacé, notamment sur les plans de santé?
Sur les plans de santé, chez JRI, le déplacé arrive, s'il est identifié comme déplacé, il a droit aux soins, surtout dans les paquets que nous avons, parce qu'il y a tant de maladies que nous ne pouvons pas soigner faute de l'autorisation, parce qu'avec la zone de santé, nous avons signé un accord de partenariat. Nous avons un certain nombre de pathologies que nous traitons. Et donc, si les déplacés se trouvent dans cette catégorie de pathologie que nous prenons en charge, il a droit à la consultation d'abord. Et quand il passe de la consultation, je peux l'envoyer au laboratoire pour certains examens des laboratoires. Et après les examens des laboratoires, je peux alors prescrire un traitement spécifique par rapport aux résultats des labos. Donc, le déplacé, lui, il a droit complètement à non-service. Et comme nous donnons aussi à manger pour ceux qui sont observés ici chez nous, donc c'est leur droit vraiment, ils sont bien traités ici, et vous pouvez même vous en rendre compte si vous passez les voir aussi.
Alors, que proposez-vous enfin pour améliorer la prise en charge médicale de déplacés depuis leur accueil jusqu'à leur départ?
Je pense que Global Refuge ne serait pas à même de répondre aux besoins de tous les déplacés, parce qu'ils sont nombreux. C'est alors que chez nous, nous nous efforçons à donner les meilleurs de nous-mêmes. Mais c'est ici pour moi une occasion de lancer un appel frappant pour les autres organismes internationaux qui sont en train d'observer ce qui se passe en République démocratique du Congo, spécifiquement dans les territoires de Beni. Je crois qu'ils sont les bienvenus pour venir aussi prêter main forte à Global Refuge pour que les déplacés se sentent aussi humains, parce qu'ils sont aussi humains comme nous. C'est seulement les conditions dans lesquelles ils se trouvent, c'est ce qui cause problème. Nous pensons qu'à notre niveau comme Global Refuge, nous donnons les meilleurs de nous-mêmes pour qu'ils se sentent à l'aise avec le peu que nous pouvons leur donner. Donc je réitère encore cet appel aux autres organismes de venir aussi aider et subvenir aux besoins sanitaires de déplacés.
Nous remercions le docteur Philippe Kyuniu qui était au micro de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi.
questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond.
Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. La question de la semaine concerne l'encadrement psychosocial des enfants porteurs du VIH. Notre consultant, le docteur Amanginkap, y a répondu. Le docteur Amanginkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons en France.
Bonjour docteur, je suis Mervedi Kalmer, étudiant à l'université officielle de Semouliki, située à Beni, au Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la plupart de cas, les enfants orphelins vivant avec le VIH sont des personnes désarmées moralement. Alors j'aimerais savoir quel comportement l'entourage d'un tel enfant peut-il adopter pour lui donner espoir et pour qu'il ne soit plus stigmatisé.
Ce que je peux répondre à Kalmer, c'est que les enfants orphelins vivant avec le VIH du sida souffrent déjà d'un manque d'amour du fait qu'ils sont orphelins, ils ont perdu un parent et parfois leurs deux parents. Ces enfants-là aussi souffrent d'une maladie qui est le VIH-sida, pour laquelle, comme il a si bien dit, ces enfants sont souvent stigmatisés. Ce qui les rend d'ailleurs très vulnérables, et cette vulnérabilité vient du fait qu'ils sont effectivement très souvent désarmés moralement, comme Kalmer le constate. Le comportement que l'entourage familial ou que ce soit l'entourage de la famille d'accueil, parce que parfois ces enfants sont placés dans des familles d'accueil du fait qu'ils sont orphelins et n'ont plus de parents. Donc le comportement que l'entourage doit avoir doit être dans un premier temps un comportement affectueux. C'est-à-dire que l'entourage de ces enfants doit leur témoigner de l'amour. Ces enfants étant orphelins ont besoin de notre amour. Ils ont besoin de cet amour-là qu'ils ont perdu de leurs parents biologiques. Ils ont besoin de retrouver cet amour-là à travers notre comportement, à travers notre façon d'agir vis-à-vis d'eux. Ces enfants ont aussi besoin que nous puissions écouter leur souffrance parce qu'ils souffrent. Ils souffrent du fait qu'ils sont orphelins, ils souffrent du fait qu'ils se trouvent un tout petit peu malades. Ils ont besoin d'écouter leur souffrance. De ce fait, ils ont besoin de notre protection. Nous devons les protéger contre la stigmatisation pour laquelle ils sont souvent victimes. Nous devons les protéger contre un certain rejet de la société. Nous devons leur protéger contre certaines discriminations dont ils sont victimes dans la société. Enfin, ces enfants-là ont besoin de notre assistance médicale. Nous devons veiller à ce qu'ils puissent suivre, avoir un bon suivi de leur traitement, les inciter, les motiver à prendre le traitement parce que parfois ils sont gagnés par l'abandon. Et nous devons aussi leur apporter un certain soutien psychologique, un soutien psychosocial. Et ceci passe par le fait qu'on doit satisfaire leurs besoins économiques et surtout leurs besoins alimentaires. Ces enfants qui ont besoin d'une bonne nutrition, et une nutrition pour ces enfants est fondamentale. Voilà ce que je pouvais répondre à Kalmer par rapport à sa question.
N'oubliez pas, si vous aussi vous avez des questions, des observations ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, vous pourrez regarder la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook et sur le site web de VOA Afrique, www.voafrique.com, et sur le réseau de nos télévisions partenaires.
C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la santé des déplacés de guerre à Beni, dans le Nord Kivu. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Mutimavisa Kambale. Il est le président d'un comité de déplacés. Il nous a raconté les conditions de vie et les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Nous avons aussi écouté le docteur Philippe Kiuniu. Il est médecin et travaille pour le compte de l'ONG Global Refuge International, une ONG qui s'occupe des déplacés et des réfugiés en RDC. Il nous a présenté les maladies les plus fréquentes parmi ces migrants, ainsi que leur prise en charge médicale. Et comme toujours, notre consultant, le docteur Amanginkap, a répondu aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci.
Merci également à Firmin Koyaweda qui était avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants et RDC qui ont aidé à la préparation de cette édition. Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smuissi à Beni. Cette édition a été réalisée par Michel Joseph et Aiden Utko qui étaient à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de
Mamadou Oumfa.
Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOAfrique. VOA.